VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Au Soudan du Sud, le gouvernement du président Salva Kiir et l'ex-rébellion déclarent avoir conclu un accord pour laisser l'ancien chef rebelle Riek Machar revenir dans la capitale pour former un gouvernement d'union nationale. Ce possible retour est une lueur d'espoir dans le règlement du conflit qui mine leur pays, Nani Tarani.
Riek Machar est attendu aujourd'hui à Juba, a annoncé l'un de ses porte-parole, James Gadek Dak, depuis Nairobi au Kenya. Son retour, initialement prévu lundi, avait été repoussé pour des raisons logistiques, a précisé la même source. Machar et son rival, le président Salva Kiir, ont signé un accord en août pour mettre fin à un conflit de 2 ans dans lequel des milliers de personnes ont été tuées et plus de 2 millions contraints de fuir leur foyer. Le retour annoncé de Riek Machar à Juba suscite un fragile espoir de règlement d'une guerre civile de plus de 2 ans qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 2,3 millions de déplacés. Il signifie la relance de l'accord de paix signé le 26 août 2015. Le texte prévoit en effet un cessez-le-feu et un mécanisme de partage du pouvoir entre les deux hommes forts du pays. C'est le limogeage de Riek Machar de son poste de vice-président par Salva Kiir en 2013, qui avait précipité le pays dans la crise depuis décembre 2013, 2 ans à peine après l'indépendance du Soudan du Sud en 2011.
Violence au Burundi, au moins 3 personnes, dont un officier de l'armée, tué mercredi soir à Bujumbura et dans le sud du pays. Les mobiles de l'assassinat du colonel dans un quartier du nord de la capitale ne sont pas encore connus. Les 2 autres victimes ont été abattues dans la province méridionale de Bururi. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Devant la maison de feu colonel Emmanuel Buzuona, assise au quartier Bukirasazi de la zone Kinama au nord de Bujumbura, des voisins sont en deuil. Ce colonel de l'armée burundaise a été tué mercredi soir par des hommes armés alors qu'il rentrait chez lui. Les témoignages des habitants de Bukirasazi affirment qu'il a été abattu par des gens armés alors qu'il revenait d'une station faire le plein d'essence de sa moto. Le porte-parole de l'armée, le colonel Gaspard Waratuza, affirme que les enquêtes ont commencé pour identifier les criminels. Gaspard Waratuza indique qu'il y a 5 mois, il était en mission dans une école appelée Staff College de Dar es Salaam en Tanzanie. Feu colonel Emmanuel Buzuona attendait calmement une nouvelle affectation. Par ailleurs, sur les collines Kivumu et Mushishima, en commune de Mugamba, province de Bururi, au sud du Burundi, 2 personnes ont été tuées mercredi soir dans un bistrot, selon le gouverneur Christian Nkurunziza. Mais d'autres sources parlent de 4 personnes tuées, dont un enseignant d'une école primaire. Depuis plusieurs jours, des assassinats et tueries sont observés dans plusieurs localités du Burundi, malgré la calmie relative des derniers mois. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema, arrivé au pouvoir il y a près de 37 ans, affronte 6 candidats dimanche à la présidentielle. Mais les principaux partis d'opposition boycottent ce scrutin où le dirigeant sortant a l'assurance d'être réélu. Initialement prévu en novembre, l'élection a été avancée au 24 avril par décret présidentiel sans explication officielle. Doyen par la longévité au pouvoir des chefs d'État africains, Obiang Nguema, qui brigue un nouveau septennat à 73 ans, avait été réélu en 2009 avec 95,37% des voix. Élection présidentielle au Tchad, l'opposition démocratique menace de ne pas reconnaître les résultats. Si la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, déclare gagnant dès le premier tour le président sortant Idriss Déby Itno. Les opposants entendent former leur propre gouvernement de salut national et ils ont le soutien d'une majorité de la société civile. Dobiana Singar est le président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
Nous sommes dans une poudrière. Il faut craindre donc des conflits post-électoraux à ne pas en finir. C'est à la CENI de jouer son rôle pleinement. Si une partie se trouve lésée, ça veut dire que l'arbitre n'a pas joué correctement son jeu. Donc tout cela va se retourner contre la CENI qui n'a pas su être le bon arbitre.
Dobian Lassigar, président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, un responsable du groupe djihadiste en sardine a déclaré aujourd'hui à l'AFP à Bamako que son groupe retenait 3 collaborateurs du CICR, la Croix-Rouge internationale, qui, selon cette organisation humanitaire basée à Genève, ont été interceptés sans effusion de sang le week-end dernier dans la région de Kidal, dans le nord-est du pays. En contrepartie de la remise en liberté des trois humanitaires avec lesquels le CICR affirme avoir perdu contact depuis le 16 avril, en Sardine réclame la libération du guide des trois captifs, Miaten Agmayaris, arrêté par la force française Barkhane, qui traque les djihadistes dans le Sahel, a expliqué ce responsable Noureddine Agmohamed. Interrogé par l'AFP sur cette revendication, une porte-parole du CICR à Genève, Claire Kaplan, a répondu que son organisation n'avait pas reçu de note à ce sujet. Madame Kaplan a ajouté que le CICR est en contact avec tous les acteurs présents dans la zone concernée, y compris les forces françaises. La Cour suprême de Côte d'Ivoire va se prononcer aujourd'hui sur la tenue du procès prévu le 9 mai de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, pour crime contre l'humanité. Ce qui est contesté par les avocats de Madame Gbagbo, Jacques Aristide.
Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, avait été déboutée le 17 mars par la Cour suprême après avoir introduit un pourvoi en cassation contre son renvoi aux assises au motif que son mémoire avait été déposé tardivement. Maître Roderick Dadji, un des avocats de Madame Gbagbo, rejette cet argument. Il affirme avoir déposé son mémoire dans les temps contre l'arrêt de la chambre d'accusation rendu le 27 janvier renvoyant Madame Gbagbo aux assises. La Cour suprême a été saisie une deuxième fois par la défense de Madame Gbagbo contre la décision du 17 mars. Si la décision de la Cour suprême est favorable, il n'y aura pas de procès Simone Gbagbo le 9 mai, a déclaré l'homme de loi. Une décision contraire va renvoyer l'ex-première dame aux assises pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Simone Gbagbo a été condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Son époux Laurent Gbagbo est lui actuellement jugé à la haie par la Cour pénale internationale.
L'Égypte dénonce l'immixtion du secrétaire général de l'ONU dans les affaires internes du pays. Ban Ki-moon avait interpellé les autorités égyptiennes pour leur demander de garantir un procès transparent à deux éminents activistes des droits de l'homme accusés de bénéficier illégalement des fonds étrangers pour leur ONG. Les précisions d'Eric Manirakiza.
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou, a qualifié les propos du numéro 1 onusien de tentative d'intimidation vis-à-vis de la justice égyptienne pour influencer son travail. Mardi, le porte-parole de Ban Ki-moon avait dit dans un communiqué que l'ONU suit de près les affaires judiciaires qui visent les ONG poursuivies pour acquisition de fonds illégaux de l'étranger. Le communiqué citait nommément Gamal Eid et Ossam Bargat pour affirmer leur droit à un procès transparent et équitable. La clarification du gouvernement est intervenue pendant la visite du secrétaire d'État américain John Kerry au Caire, qui s'est déplacé pour manifester le soutien de l'administration Obama à la stabilité de l'Égypte. Monsieur Kerry a aussi précisé qu'il a discuté avec le président Abdel Fattah al-Sissi des moyens de réduire les divergences avec son régime. Depuis la chute de Mohamed Morsi, le nouveau pouvoir au Caire a lancé une implacable répression contre l'opposition, toutes tendances confondues, et de nombreuses organisations internationales de défense des droits de l'homme accusent M. Sissi de diriger un régime ultra-autoritaire.
Sommet du Conseil de coopération du Golfe à Riyad en Arabie Saoudite, le président américain Barack Obama a retrouvé aujourd'hui dans un climat de méfiance les monarques du Golfe dans l'espoir de les impliquer davantage dans la lutte contre le groupe État islamique. Hier, le patron du Pentagone, Sean Carter, a révélé que les États-Unis accélèrent depuis un an leur coopération militaire avec ces pays. Idriss Fall.
Ashton Carter, secrétaire américain à la Défense, s'exprimait à Riyad après une réunion avec ses homologues du Golfe. Le refus de Washington d'intervenir en Syrie pour déboulonner Bachar al-Assad et les négociations avec l'Iran, le grand rival chiite, étaient des pommes de discorde avec les monarchies du Golfe. Mais l'accélération de la coopération militaire proposée par Washington lors du sommet de Camp David semble avoir porté ses fruits. D'après le patron du Pentagone, en une année, les États-Unis ont autorisé plus de 33 milliards de ventes d'équipements militaires aux pays du Conseil de coopération du Golfe. Les patrouilles communes de navires de guerre se sont multipliées, tout comme les exercices militaires, avec un projet de défense aérienne et antimissile commun pour les six pays.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.